Il y eut un peu de wafi-wafi au dîner, mais pas trop. Et ça ne sembla pas perturber Tina. Mais plus tard, elle vint retrouver Pete dans sa chambre juste au moment où il finissait ses devoirs. Elle avait mis son pyjama grenouillère et traîné derrière elle Madame Bisley, sa dernière poupée doudou et la plus importante de toutes. C'était comme si elle avait de nouveau 5 ans.
« Pitou, je peux venir dans ton lit pas longtemps? J'ai fait un mauvais rêve. »
Il envisagea de la renvoyer dans sa chambre, puis, des images de la mal enterrée miroitant dans son esprit, décida que ça pourrait lui porter malheur. Ça serait aussi méchant de sa part, vu les cernes noires qu'elle avait sous ses jolis yeux.
« Bon, d'accord, pas longtemps. Mais que ça devienne pas une habitude. »
Une des expressions favorites de leur mère. Tina se glissa dans le lit et se poussa contre le mur, sa position préférée pour dormir, comme si elle avait l'intention de rester là toute la nuit. Pete referma son manuel de sciences de la Terre, s'assit à côté d'elle et grimaça.
« Alerte à la poupée, Tini. J'ai la tête de Madame Bisley qui me rentre dans les fesses. Je vais la rouler en boule à mes pieds. Là, c'est mieux comme ça ? Et si elle s'étouffe ? Elle respire pas, idiot. C'est qu'une poupée. Et Hélène, elle dit que j'en aurai marre bientôt.
Hélène n'a rien dans le ciboulot.
C'est ma copine. »
Pete nota avec un certain amusement qu'elle n'avait pas exactement opposé un démenti.
« Mais elle a sûrement raison. Tout le monde grandit.
Pas toi. Tu seras toujours ma petite sœur. Et t'endors pas. Tu retournes dans ta chambre dans 5 minutes.
10.
6. »
Elle réfléchit.
« Ok. »
Un grognement étouffé leur parvint depuis le rez-de-chaussée, suivi du claquement des béquilles. Pete suivit le bruit jusque dans la cuisine, où son père s'assoirait, allumerait une cigarette et soufflerait la fumée par la porte de derrière grande ouverte, ce qui déclencherait la chaudière, et la chaudière brûlait pas du mazout, d'après leur mère, mais des billets de banque.
« Tu crois qu'ils vont divorcer ?»
Pete reçut un double choc, celui de la question d'abord, puis de son pragmatisme adulte. Il s'apprêtait à dire « Non, bien sûr que non », et puis il se rappela à quel point il détestait les films où les adultes mentent aux enfants. Autant dire tous les films.
Je sais pas. Pas ce soir, en tout cas. Les tribunaux sont fermés.
Tina gloussa. C'était probablement bon signe. Il attendit qu'elle dise autre chose. Mais non. Les pensées de Pete retournèrent à la malle enterrée sous la berge au pied de l'arbre. Il avait réussi à tenir ses pensées à distance pendant qu'il faisait ses devoirs, mais... Non, c'est pas vrai. J'y ai pensé tout le temps.
Tini, t'as pas intérêt à t'endormir.
Je m'endors pas.
Mais pas loin, d'après le son de sa voix.
Qu'est-ce que tu ferais si tu trouvais un trésor? Un coffre enterré rempli de bijoux et de doublons d'or?
C'est quoi des doublons?
Des pièces d'autrefois. Je le donnerai à papa et maman pour qu'ils se disputent plus. Pas toi?
Si,
dit Pete.
Allez, retourne dans ton lit maintenant, avant que je doive te porter moi-même.
L'assurance maladie de Tom Saubers ne lui donnait plus droit qu'à 2 jours de rééducation par semaine maintenant. Un fourgon médical venait le chercher tous les lundis et vendredis à 9h et le ramenait à 16h, après l'hydrothérapie et une réunion où des gens souffrant de blessures de longue durée et de douleurs chroniques s'asseyaient en cercle et parlaient de leurs problèmes. Tout ça pour dire que ces jours-là, il n'y avait personne à la maison pendant 7 heures. Le jeudi soir, Pete alla se coucher en se plaignant d'avoir mal à la gorge. Le lendemain matin, il se leva en disant qu'il avait toujours mal, et qu'en plus, il pensait avoir de la fièvre.
« C'est vrai, tu as le front brûlant, »
dit Linda après avoir posé la face interne de son poignet sur son front. Pete l'espérait bien, après avoir gardé la figure au ras de sa lampe de chevet avant de descendre.
« Si ça ne va pas mieux demain, il faudra aller voir le docteur. »«
Ça, c'est une idée !» s'exclama Tom depuis son côté de la table où il tripatouillait ses œufs brouillés. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. « Un spécialiste, peut-être. Laissez-moi juste appeler Shorty le chauffeur. Tina est prioritaire sur la Rolls pour son cours de tennis au country club, mais je crois que la Lincoln est disponible. »
Tina rigola. Linda lança un regard noir à Tom, mais avant qu'elle puisse lui répondre,
Pete dit qu'il se sentait pas si mal que ça, qu'un jour de repos à la maison suffirait sûrement à le retaper. Et que sinon, le week-end le ferait. « Je suppose, » sa mère soupira. « Tu veux manger quelque chose ?» Oui, il avait faim. Mais il jugea préférable de rien dire, vu qu'il était censé être malade. Il mit ses mains devant sa bouche et fit semblant de tousser.
« Non, peut-être juste un peu de jus de fruits. Et puis, je crois que je vais remonter me coucher. »
Tina quitta la maison la première, sautillant jusqu'au coin de la rue, où Hélène et elle discuteraient de tous les trucs bizarres dont discutent les filles de 9 ans en attendant le bus scolaire. Puis, maman partit pour son école avec la Focus. Et enfin papa, qui béquilla dans l'allée jusqu'au fourgon médical qui l'attendait. Pete le regarda s'éloigner depuis la fenêtre de sa chambre, trouvant que son père avait l'air plus petit qu'avant. Les cheveux qui dépassaient de sa casquette Grand Dogs avaient commencé à grisonner. Le fourgon partit, Pete s'habilla en vitesse, attrapa un des sacs de courses réutilisables que sa mère gardait dans le cellier et fila au garage. Il prit un marteau et un burin dans la caisse à outils de son père et les jeta dans le sac. Il s'empara de la pelle, s'apprêta à sortir, puis fit demi-tour et prit aussi le pied de biche. Il n'avait jamais été scout, mais il croyait à la devise « toujours prêt ». Le matin était assez froid pour qu'il voie la condensation de son souffle, mais lorsqu'il eut creusé suffisamment autour de la malle pour sentir qu'il avait une chance de la dégager, la température avait monté et il transpirait sous son manteau. Il le suspendit à une branche basse et scruta les environs pour s'assurer qu'il était toujours seul au bord du ruisseau. Il avait déjà fait ça plusieurs fois. Rassuré, il ramassa de la terre et se frictionna la paume des mains avec, comme un batteur de baseball se préparant à frapper. Il saisit la poignée sur le côté de la malle, sans oublier de se préparer à ce qu'elle craque. La dernière chose qu'il voulait, c'était dégringoler la berge cul par-dessus tête. S'il tombait à l'eau, il pourrait réellement choper la crève. Probablement rien d'autre là-dedans qu'un tas de vieux habits moisis, de toute façon. Oui, mais pourquoi quelqu'un irait enterrer une malle remplie de vieux habits? Pourquoi pas juste les brûler ou les donner au Goodwill? Une seule façon de le savoir. Pete inspira profondément, retint son souffle et tira. La malle resta où elle était et la vieille poignée poussa un grincement menaçant. Mais Pete fut encouragé. Il s'aperçut qu'il pouvait remuer légèrement la malle d'un côté à l'autre. Ça lui rappela quand son père nouait un fil autour des dents de lait de Tina et tirait d'un coup sec lorsqu'elle ne voulait pas tomber toute seule. Il s'agenouilla, en se souvenant qu'il ferait bien de laver son jean en rentrant ou alors de l'enfouir loin dans son placard, et regarda au fond du trou. Il vit qu'une racine s'était refermée sur l'arrière de la malle tel un bras possessif. Attrapant la pelle à la base du manche, il entreprit de la trancher. La racine était épaisse, mais après plusieurs interruptions, il finit par la sectionner. Il posa la pelle de côté et saisit à nouveau la poignée. La malle avait plus de jeu à présent. Elle était sur le point d'être dégagée. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 10h15. Il pensa à sa mère l'appelant pendant sa pause pour savoir comment il allait. Pas très grave s'il répondait pas. Elle penserait juste qu'il dormait. Mais il se dit de pas oublier de vérifier le répondeur à son retour. Il reprit l'appel et creusa autour de la malle, dégageant la terre et sectionnant des racines plus petites, puis il se saisit à nouveau de la poignée.
« Cette fois-ci, saloperie, » dit-il, « cette fois-ci, c'est la bonne !»
Il tira, la malle glissa vers lui si soudainement et avec une telle facilité que Pete serait tombé s'il n'avait pas eu les pieds solidement écartés. La malle penchait en dehors du trou à présent, le couvercle parsemé de terre. Il voyait les fermoirs à levier à l'ancienne sur le devant, comme sur une gamelle d'ouvrier, et aussi un gros cadenas. Il attrapa de nouveau la poignée, et cette fois, elle craqua.
« Enfoirax !»
dit Pete en regardant ses mains. Elles étaient rouges et palpitées. « Bon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. » Une autre expression fétiche de maman. Il agrippa comme il put la malle à bras le corps et se balança en arrière sur ses talons. Cette fois-ci, elle sortit entièrement de sa cachette, relique humide et sale, aux ferrures rouillées, revoyant certainement le soleil pour la première fois depuis des années. Elle faisait environ 80 cm de long sur au moins 50 de profondeur, peut-être plus. Pete soupesa un côté,
et estima qu'elle devait peser dans les 30 kilos, la moitié de son poids à lui. Mais il était impossible d'évaluer le poids du contenu par rapport au poids de la malle seule. Dans tous les cas, c'était pas des doublons. Si la malle avait été remplie d'or, jamais il n'aurait été capable de la sortir, encore moins de la soulever. Il releva les fermoirs, déclenchant de petites avalanches de terre, puis se pencha sur le cadenas, prêt à le faire sauter d'un coup de marteau et de burin. Et s'il s'ouvrait toujours pas après ça, et il s'ouvrirait certainement pas, alors il prendrait le pied de biche. Mais d'abord, qu'il ne tente rien à rien. Il saisit le couvercle de la malle qui s'ouvrit dans un crissement de gonds encrassés. Plus tard, il présumerait que quelqu'un l'avait acheté d'occasion, probablement à un bon prix puisque la clé manquait, mais pour le moment, il se contentait de la fixer du regard. Oublier son ampoule à la main, son dos et ses cuisses endolories, la sueur dégoulinant sur son visage strié de terre. Oublier sa mère, son père, sa sœur. Oublier aussi les wafi-wafi. Du moins pour le moment. L'intérieur de la malle avait été doublé de plastique transparent afin de protéger le contenu de l'humidité. En dessous, il apercevait ce qui ressemblait à des piles de carnet. Il se servit du tranchant de sa paume comme d'un essuie-glace pour essuyer un croissant de fines gouttelettes sur le plastique. C'était bien des carnets. De beaux carnets, très certainement reliés en cuir. Il devait bien y en avoir une centaine. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des enveloppes. Comme celle que sa mère ramenait à la maison après avoir encaissé un chèque. Pete écarta le plastique et regarda fixement l'intérieur de la malle à moitié pleine. Les enveloppes portaient les mentions « Granite State Bank » et « Votre ami pour la vie ». Plus tard, il remarquerait certaines différences entre ces enveloppes et celles que sa mère ramenait de la Corn Bank and Trust. Pas d'adresse e-mail sur celle-ci et rien sur les retraits par carte. Mais pour le moment, il les fixait juste du regard. Son cœur battait si fort qu'il voyait des points noirs palpiter devant ses yeux et il se demanda s'il n'allait pas s'évanouir. Que dalle, oui, il n'était pas une fille. Peut-être, mais il se sentait indéniablement vaseux et il s'aperçut qu'une partie du problème venait du fait que depuis qu'il avait ouvert la malle, il avait oublié de respirer. Il inspira profondément, expira et inspira de nouveau. Jusqu'au fond des orteils, on aurait dit. Il retrouva ses esprits, mais son cœur cognait plus fort que jamais, et ses mains tremblaient. « Ces enveloppes de banque seront vides. Tu le sais, hein? Les gens trouvent de l'argent enterré dans les livres et les films, mais pas dans la vraie vie. » Sauf qu'elle paraissait pas vide. Elle paraissait archi-pleine. Pete tendit la main pour en prendre une, puis retint son souffle, en entendant un froissement de l'autre côté du ruisseau. Il se retourna brusquement et vit deux écureuils, pensant probablement que le dégel de la semaine signifiait le retour du printemps, en train de batifoler dans les feuilles mortes. Ils s'élancèrent en haut d'un arbre, queue frémissante. Pete retourna à la malle et s'empara d'une enveloppe. Le rabat était juste rentré, pas collé. Il le souleva d'un doigt gourd, alors que la température avait bien monté maintenant. Il appuya sur les côtés de l'enveloppe pour l'ouvrir et regarda à l'intérieur. De l'argent. Des billets de 20 et de 50.
« Seigneur Jésus, mon Dieu, qui êtes aux cieux !» murmura Pete Saubers.
Il sortit la liasse de billets de l'enveloppe et essaya de compter. Mais ses mains tremblaient trop et il en laissa tomber quelques-uns. Ils voletèrent dans l'herbe et avant qu'il les rassemble à la hâte, son cerveau surchauffé lui jura avoir vu Ulysse Grant lui faire un clin d'œil depuis un billet de 50. Il compta 400 $. 400 $ dans cette seule enveloppe. Et il y en avait des dizaines. Il réenfonça les billets dans l'enveloppe. Pas facile, parce que maintenant ses mains grelottaient encore plus que celles de grand-pa Fred, la dernière ou les deux dernières années de sa vie. Il jeta l'enveloppe dans la malle et regarda autour de lui, les yeux écarquillés et exorbités. Les bruits de la circulation, qui ici, dans cette friche broussailleuse, lui avaient toujours paru légers, lointains et insignifiants, lui semblaient maintenant proches et menaçants. Non, c'était pas l'île au trésor. C'était une ville de plus d'1 million d'habitants, dont beaucoup actuellement au chômage,
aurait adoré posséder ce qu'il y avait dans cette malle.
Réfléchis, se dit Pete Saubers. Réfléchis, bon sang.
C'est la chose la plus importante qui te soit jamais arrivée. Peut-être même la chose la plus importante qui t'arrivera jamais. Alors réfléchis, et bien.
Ce fut d'abord Tina qui lui vint à l'esprit, blottie contre le mur dans son lit.
« Qu'est-ce que tu ferais si tu trouvais un trésor ?»
lui avait-il demandé.
« Je le donnerais à papa et maman, »
avait-elle répondu.
« Mais imagine que maman veuille le rendre. » C'était une question importante.
« Papa, non, jamais. » Pete le savait.
Mais maman était différente. Elle avait des idées bien arrêtées sur ce qui était bien et ce qui n'était pas. S'il leur montrait cette malle et ce qu'il y avait dedans, ça risquait de déclencher le pire wafi-wafi à propos d'argent de tous les temps.
« Le rendre à qui, en plus ?» murmura Pete. « À la banque ?»
C'était ridicule.
« Ou pas ?» Imagine que cet argent soit vraiment un trésor de pirate. Pas de flibustier, mais de braqueur de banque. Mais alors pourquoi il était dans des enveloppes, comme pour les retraits ? Et tous ces carnets noirs, alors ?
Il pourrait réfléchir à tout ça plus tard, mais pas maintenant. Pour le moment, il devait agir.
Il consulta sa montre et vit qu'il était déjà 11h moins le quart. Il avait encore du temps, mais il devait l'utiliser.
« Le temps, c'est de l'argent, » murmura-t-il.
Et il commença à jeter les enveloppes de liquide Granite State Bank dans le sac à commission en toile contenant le marteau et le burin. Il expédia le sac en haut de la berge et le recouvrit de son manteau. Il bourra le plastique dans la malle, referma le couvercle et la repoussa dans le trou à grand renfort de muscles. Il fit une pause, le temps d'essuyer son front poisseux de terre et de sueur, puis empoigna la pelle et se mit à pelleter comme un dingue. Il recouvrit la malle, presque entièrement, s'empara du sac et de son manteau et remonta le chemin de la maison en courant. Il cacherait le sac au fond de son placard. Ça ferait l'affaire pour le moment. Et irait voir s'il y avait un message de sa mère sur le répondeur. Si tout était OK côté maman, et si papa n'était pas rentré plus tôt de sa thérapie, ça ce serait horrible. Il pourrait se dépêcher de retourner au ruisseau pour tenter de mieux cacher la malle. Il jetterait peut-être un coup d'œil au carnet plus tard, mais alors qu'il remontait chez lui par cette matinée ensoleillée de février, sa seule préoccupation était qu'il puisse y avoir d'autres enveloppes d'argent parmi eux, ou en dessous. « Je dois prendre une douche, se dit-il, et nettoyer la terre dans la baignoire après, pour pas qu'elle me demande ce que je trafiquais dehors alors que je suis censé être malade. Je dois être vraiment prudent. » Et je peux en parler à personne. Personne du tout.
Sous la douche, il eut une idée.